Europe Midi, Romain Desarbres.
Il est 12h30 pile, bonjour à tous, bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Une émotion intense à Douai au procès de David Rameau qui est jugé à partir de ce matin pour la séquestration, le viol et le meurtre de la petite Angélique, 13 ans au moment des faits en 2018. David Rameau est un récidiviste, Lionel Gougelot est sur place et il suit ce procès pour Europe 1. Est-ce que vous connaissez le dispositif louer abordable qui permet aux propriétaires de bénéficier d'avantages fiscaux s'ils acceptent de baisser les loyers ? Ce nouveau dispositif va être amélioré. On verra ça avec Élise Dangean. Et puis on sera en direct avec un représentant des propriétaires immobiliers. Les Républicains vont faire leur compte du nombre d'adhérents ce soir. Clôture des inscriptions pour avoir le droit de voter à la primaire. On va voir quel candidat a le plus attiré de militants, donc de votants dans sa région. On verra ça avec Alexandre Chauveau. Les bus, les trains, les voitures à hydrogène, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Je poserai la question à Aurélien Fleureau, et ce alors qu'Emmanuel Macron effectue un déplacement sur ce thème aujourd'hui. Et puis le temps, la tendance météo avec vous Anissa Haddadi, une nette amélioration dans le sud. Hein.
Oui, c'est la bonne nouvelle du jour. Hein. Après les orages violents et le gros coup de vent d'hier, ça y est, enfin le soleil est de retour au bord de la Méditerranée. Partout ailleurs, en revanche, le ciel reste bien gris. Un vrai temps de novembre.
Voilà, un vrai temps de novembre. À tout à l'heure, Anissa, pour la météo complète.
Europe 1.
Direction Douai, où David Rameau a donc commencé à parler ce matin. Il est accusé du meurtre et du viol d'Angélique. Il a 48 ans aujourd'hui et la petite victime avait 13 ans au moment du meurtre en 2018. David Rameau avait déjà été condamné pour viol il y a 22 ans. Lionel Gougelot, vous suivez ce procès. La justice va tenter de comprendre comment ce père de famille, en apparence totalement réinséré, a pu ainsi récidiver. Hein.
Effectivement, Romain, et pendant toutes ces années, notamment ses 20 ans de vie commune avec son épouse rencontrée en permission lors de sa première détention, David Rameau a donné l'image d'un père de famille modèle, chauffeur de bus, apprécié de ses collègues et voisins sans histoire. Une femme, deux enfants et un entourage qui ne pouvait pas imaginer qu'il était en fait une bombe à retardement lâchée dans la société. Condamné en 96 pour le viol d'une adolescente sous la menace d'une arme, Rameau sera remis en liberté en 2000 sans obligation de soins. La loi instaurant le suivi socio-judiciaire n'étant pas en vigueur à l'époque. Et pendant toutes ces années, David Rameau va donc dissimuler sa vraie nature jusqu'à ce qu'il a décrit ce matin, cette excitation soudaine pour la petite Angélique, le besoin de satisfaire un plaisir égoïste et finalement le moment de panique qui l'a poussé à étouffer la petite avec son pantalon. Alors vous l'imaginez, au premier rang de la salle, la famille d'Angélique et leur avocate Audrey Jankélévitch veulent comprendre pourquoi la dangerosité de cet homme n'a pas été repérée plus tôt.
Ils avaient dit à l'époque qu'ils émettaient le souhait qu'il n'y ait plus d'autres Angéliques, que ça n'arrive pas, qu'on ne puisse pas vivre dans un monde où quelqu'un recommet des faits de cette nature et va encore plus loin dans l'atrocité. Oui, c'est un enjeu essentiel du procès, en tout cas des questionnements, qu'on puisse creuser et prendre le temps de savoir qui est David Rameau.
Et cet après-midi, David Rameau sera confronté au témoignage de son ex-épouse qui, au moment du drame, avait souhaité se constituer partie civile, elle aussi s'estimant victime de cette affaire. La justice avait finalement rejeté sa demande.
Lionel Gougelot en direct de Douai, du tribunal de Douai pour Europe 1. Merci Lionel. On est en direct avec Marjorie Sueur, experte criminologue et psychologue clinicienne. Bonjour Marjorie Sueur, merci d'être en direct avec nous dans Europe Midi. Bonjour. Dites-nous déjà ce que vous inspire le cas de David Rameau. Est-ce que c'est un cas rare ?
C'est pas forcément un cas rare, malheureusement. Je pense qu'il y a vraiment, la justice doit se poser la question de comment gérer, les délinquants sexuels. C'est vraiment aujourd'hui comment faire pour... Alors, repérer la dangerosité, oui, c'est un fait. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour pouvoir, les aider et pour qu'il n'y ait plus de nouvelles victimes, de cette infraction-là. Aujourd'hui, le fichier, effectivement, il existe. Ils ont pour obligation de pointer, régulièrement leur adresse. Maintenant, il y aurait la solution de l'injonction de soins, tout en sachant que c'est quand même limité, parce que travailler auprès d'une personne qui n'aimait pas le désir de travailler justement sur ce qui est dysfonctionnel chez lui, ben ça interroge, et comment on va pouvoir créer une demande, sans compter que quand il y a l'injonction de soins, il serait aussi nécessaire que, en tant que thérapeute, on ait accès à la procédure de façon à ce qu'on puisse aller au cœur, je dirais, du sujet avec l'auteur qu'on va recevoir, de façon à ce qu'il ne nous balade pas, excusez-moi l'expression, oui. Et qu'il fuit, je dirais, le sujet pour lequel on se rencontre.
Marjorie Sueur, vous avez entendu Lionel Gougelot. Il a expliqué que David Rameau avait ressenti une envie qu'il ne pouvait pas contenir. Comment ça se traite ?
Alors le problème, c'est que c'est pulsionnel. C'est après, la question qui me venait, c'est comment en 20 ans, il a pu gérer ses pulsions sexuelles, puisqu'il est quand même attiré les deux fois par des adolescentes de 13 ans. Donc comment il a su gérer pendant 20 ans ses pulsions sexuelles ? Et aujourd'hui, ça serait de travailler sur l'orientation de sa pulsion, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir l'enlever, cette pulsion-là, mais c'est arriver à faire que le but sur lequel elles vont s'exprimer soit adapté à la situation. On parle certaines fois de castration chimique, alors je dirais que ça, sur le plan mécanique, pourquoi pas, mais psychologiquement, ça n'enlèvera jamais la pulsion que l'individu peut ressentir. Donc il y a tout un travail au niveau de la sexualité à reprendre, savoir aussi où est né le plaisir sexuel chez l'auteur. Est-ce que lui-même a déjà vécu ça et il l'a enregistré comme quelque chose de normal ou pas ? Qu'est-ce qui fait que pendant 20 ans, il a pu avoir une sexualité, on va dire, normale, adaptée avec une femme, et que là, il voit Angélique et ça explose, je dirais. La pulsion est plus forte que tout.
Oui, parce qu'il avait déjà été donc condamné pour viol. Comment on pourrait suivre les personnes condamnées pour viol ? Il faut les suivre à vie, selon vous ?
Je pense que ça serait nécessaire. Il faut vraiment qu'il y ait un travail qui soit fait. Il faut qu'il y adhère. Le problème, il est vraiment là. C'est que si la personne n'adhère pas au suivi, si pour lui, il n'entend pas que sa sexualité est une sexualité déviante, on aboutira malheureusement à rien, quoi.
Merci beaucoup, Marjorie Sueur, experte criminologue, psychologue, clinicienne. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi.
Europe Midi. Midi 30, 13h, Romain Desarbres.
Il est 12h37. Si vous avez un studio que vous louez ou que vous envisagez d'en acheter un pour votre retraite, par exemple, écoutez bien. Le dispositif loué abordable va être renforcé au bénéfice des propriétaires qui acceptent de réduire les loyers. Élise Dangean avec nous. Bonjour Élise.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Comment ça va fonctionner ? Expliquez-nous.
Alors, il s'agira d'une aide pour compenser l'effort de celles et ceux qui acceptent de louer en dessous des prix du marché. Concrètement, les propriétaires qui feront ce choix bénéficieront d'une réduction d'impôts quasi équivalente à la baisse de prix, 35%. Par exemple, si vous louez votre appartement 30% moins cher. Selon la ministre du Logement, ça peut représenter entre un demi et deux mois de loyer net. C'est énorme. Un dispositif qui existe déjà, mais qui va être simplifié à partir du premier trimestre de l'année prochaine. Objectif du gouvernement, inciter les propriétaires de logements vacants à mettre leurs biens sur le marché locatif. Il y en aurait plus d'un million en France, dont 300 000 dans les zones tendues, là où la demande est très forte.
Merci Élise. On est en direct avec Christophe Desmerson. Bonjour. Vous êtes président de l'UNP, l'Union nationale des propriétaires immobiliers, Christophe Desmerson. Ce nouveau dispositif, ça va vraiment inciter les propriétaires à baisser les loyers, selon vous ?
J'allais dire malheureusement non, Romain Desarbres. Le problème, c'est qu'au départ, on part d'une bonne idée. Le mécanisme est intelligent, mais en réalité, c'est une usine à gaz. J'écoutais la présentation qui nous parlait de simplification. Il n'y a pas du tout de simplification. Ah. Donc, en réalité, c'est un effet d'annonce et c'est uniquement une usine à gaz.
C'est-à-dire, parce que là, d'après Bercy, hein, d'après le gouvernement, les propriétaires qui jouent le jeu, hein, on va dire ça comme ça, seront gagnants au final.
Oui, ben, je veux voir, je ne sais pas, ils n'ont pas la même calculette que les propriétaires à Bercy, hein, parce que si on regarde, j'écoutais quand même ce que vous disiez, c'était la baisse quasi équivalente. Ça va être simplifié, il n'y a rien de simplifié, il n'y a pas de baisse quasi équivalente. Et puis après, il faut surtout se reporter, regarder à partir de quel loyer on base, quel loyer de base on part. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Nous, on a un observatoire clameur, les propriétaires privés ont un observatoire des loyers clameur. Peut-être que si on part de cet observatoire clameur, il y aura quelque chose à faire. Mais en attendant, on est prudent et plus que prudent parce que les cadeaux, les propriétaires, ils ne les voient pas souvent.
Bon, c'est toujours aussi intéressant aujourd'hui d'acheter un studio, un appartement qu'on met en location, les prix étant de plus en plus hauts.
Alors, les prix sont hauts, les loyers sont encadrés dans les zones tendues. Et tout à l'heure, j'écoutais attentivement, vous parliez dans votre présentation d'un million de logements vacants.
Oui.
En réalité, il n'y a pas un million de logements vacants. Il y a 3 millions de logements vacants. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des logements vacants dans les zones tendues parce que là, les propriétaires sont frileux pour louer. Il faut le reconnaître, certains propriétaires sont frileux. Et de l'autre côté, on a plus de la moitié du territoire avec des zones détendues. Et là, c'est la vacance locative subie. Et là, c'est des gens qui ont des logements à louer, souvent en bon état, pas toujours, mais souvent en bon état. Et là, il n'y a pas assez de locataires pour les louer.
Alors, Christophe Desmersons, autre question. Est-ce que certaines personnes n'hésitent pas à acheter un studio, un appartement ou autre à cause des difficultés qu'il y a à expulser les mauvais payeurs ensuite? Ça, c'est un vrai sujet encore?
Bien sûr, malheureusement, c'est un vrai sujet toujours parce qu'on a parlé de ça rapidement, mais longtemps avec Emmanuel Wargon. Dès son arrivée, on en a parlé. Si vous voulez, c'est vrai que les gens sont inquiets. C'est très peu de personnes qui ne payent pas. C'est 1%. Qui ne payent pas et qui font des grosses dégradations. Le problème, c'est que ce pourcent, il empoisonne la vie de tous les propriétaires, bailleurs, et tout le monde est frileux.
Merci beaucoup Christophe Desmersons, président de l'UNPI, l'Union Nationale des Propriétaires Immobiliers, d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi. 12h41, restez bien sur Europe 1. Dans un instant, on ira aux urgences de l'hôpital Necker à Paris, que visite Marine Le Pen. A tout de suite.
Europe Midi, Romain Desarbres.
Il est 12h44, on est à 5 jours de l'événement politique de la semaine, le débat des Républicains pour la primaire du 1er au 4 décembre. Débat à suivre dimanche soir à partir de 20h50 sur Europe 1 et sur CNews. Alexandre Chauveau, bonjour Alexandre.
Bonjour.
Service politique d'Europe 1 évidemment. Vous avez des informations sur le nombre d'adhérents qui se sont inscrits pour voter. Plus de 50 000 nouveaux adhérents depuis septembre, soit 65% de votants en plus en 2 mois. Qu'est-ce que ça va changer pour le vote?
Eh bien, c'est l'une des clés du scrutin parce que quand le parti ne comptait que 80 000 adhérents en septembre, les militants semblaient plutôt penchés pour Michel Barnier. Mais depuis, Valérie Pécresse et Xavier Bertrand ont repris leur carte aux Républicains et dans chacune de leurs réunions publiques, ils appellent leurs sympathisants à adhérer. Valérie Pécresse, hier soir à Saint-Quentin en Yvelines.
Et on compte sur vous le 1er décembre. Vous avez encore 24 heures pour adhérer, faire adhérer et faire voter. Et je vous le dis, cette élection de 2022, on va la gagner.
Tous les candidats fondent la carte, comme on dit. La plus grosse fédération est celle d'Éric Ciotti dans les Alpes-Maritimes, avec plus de 9000 membres, suivi de près par Paris. Au niveau des régions, c'est l'Île-de-France, présidée par Valérie Pécresse, qui domine avec plus de 30 000 adhérents. C'est 2 fois l'Auvergne-Rhône-Alpes, où se trouve la Savoie de Michel Barnier, et 4 fois les Hauts-de-France de Xavier Bertrand. À noter qu'avec une seule carte bancaire, vous pouvez faire adhérer jusqu'à 4 personnes différentes.
Alexandre Chauveau, merci beaucoup Alexandre. Et donc le débat des Républicains, c'est sur Europe 1 et CNews dimanche soir à partir de 20h50. On part à présent aux urgences de l'hôpital Necker à Paris, que visite aujourd'hui Marine Le Pen. La candidate du RN va s'entretenir avec des médecins urgentistes. C'est vous, Victor Chabert, qui suivez cette visite. Bonjour Victor.
Bonjour Romain.
Pourquoi Marine Le Pen a-t-elle choisi de visiter un service d'urgence?
Eh bien, cela lui permet de se démarquer d'Éric Zemmour, candidat sur le même espace politique, et montrer qu'elle est proche des préoccupations des Français. Marine Le Pen a détaillé son programme en matière de santé. Pour elle, c'est une thématique prioritaire dans cette campagne. Elle propose notamment de créer des urgences gériatriques, d'arrêter la suradministration de l'hôpital, mais surtout une revalorisation salariale des personnels soignants.
Bon, il y a à l'évidence un problème de revalorisation salariale. Il faut à tout prix que les infirmiers, les infirmières notamment, puissent véritablement atteindre le niveau de rémunération de la moyenne de l'OCDE, c'est-à-dire 10% de plus que ce que prévoit encore le Ségur de la santé.
Marine Le Pen a également réaffirmé son opposition à tout nouveau confinement. Faire des propositions sur la santé après une grosse séquence sur le pouvoir d'achat, c'est l'assurance pour elle de parler aux classes populaires, c'est sa base électorale et elle est solide. La candidate du Rassemblement National est d'ailleurs la seule aujourd'hui à pouvoir compter sur elle. C'est donc aussi une façon de s'éloigner d'Éric Zemmour qui pour l'instant n'émet que peu de propositions sur ces sujets. Un livret thématique sur la santé sera publié bientôt par Marine Le Pen.
Victor Chabert en direct de l'hôpital Necker, du service d'urgence de l'hôpital Necker à Paris. Merci Victor.
Europe Midi, midi 30. 30, 13h, Romain Desarbres.
12h47, cette information qui tombe à l'instant. Écoutez bien, le défenseur international français de Manchester City, Benjamin Mendy, 27 ans, vient d'être inculpé de 2 viols supplémentaires. Il comparaîtra devant un tribunal à partir de demain. Benjamin Mendy, qui est désormais visé par 6 chefs d'accusation de viol et une d'agression sexuelle. Information est tombée il y a donc quelques minutes. C'est toujours un sujet sensible, le niveau des élèves en France. Le ministère de l'Éducation nationale publie une enquête sur le niveau des CP, des CE1 et des 6e. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Virginie Riva, avec nous, on commence avec la bonne nouvelle.
Oui, la bonne nouvelle, c'est que la baisse de niveau observée en CP et CE1 l'an dernier à cause de la crise sanitaire a été complètement rattrapée. Tous les élèves reviennent à leur performance de 2019 avec même certaines petites améliorations pour la comparaison de nombres ou la reconnaissance de lettres en CP par exemple. Mais le gros point noir reste la maîtrise de la lecture à l'oral en 6e, ce qu'on appelle le test de fluence. Un tiers des élèves à l'entrée en 6e n'ont qu'un niveau CE2 et c'est notamment vrai en éducation prioritaire. Édouard Geffray, directeur général de l'enseignement scolaire du ministère de l'Éducation nationale.
On a encore un niveau de ce qu'on appelle de fluence, c'est-à-dire capacité à lire avec aisance à l'oral à voix haute en 6e, qui est aujourd'hui insuffisant. C'est quelque chose qu'on savait déjà l'année dernière. Je rappelle d'ailleurs que la lecture est grande cause nationale. C'est parce qu'on a tous conscience qu'il y a une urgence collective à la lecture, pas seulement à l'école, mais aussi à la maison, dans les bibliothèques municipales, partout. Il faut faire lire, faire lire, faire lire.
Les écarts entre élèves défavorisés et les autres diminuent en revanche au primaire, sauf entre le milieu du CP et le début du CE1. Une seule hypothèse pour le ministère, c'est l'effet vacances scolaires. En clair, les enfants qui ne lisent pas ou n'ont pas de cahier de vacances régressent plus que les autres. Une étude va être lancée rue de Grenelle.
Merci Virginie Riva. 12h49, restez bien avec nous. Le président de la République se rend aujourd'hui à Béziers pour visiter une entreprise innovante sur l'hydrogène. L'hydrogène, vous savez, on en parle beaucoup. Pourquoi faire? À partir de quand est-ce que l'hydrogène pourra être développé en France et développé proprement? On en parle dans un instant. À tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Il est 12h52. Question. Est-ce que l'hydrogène va véritablement un jour remplacer le pétrole comme énergie pour nous déplacer? Emmanuel Macron est à Béziers aujourd'hui pour visiter l'entreprise Genvia qui fabrique des électrolyseurs. On va tout comprendre avec vous, Aurélien Fleureau. Aurélien, l'enjeu de l'hydrogène actuellement, vous allez nous l'expliquer, c'est comment le produire proprement. Hein.
Oui, parce qu'aujourd'hui, l'hydrogène est fabriqué à 95% à partir de ressources fossiles, essentiellement gaz naturel et charbon, ce qui libère beaucoup de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Voilà pourquoi il est qualifié d'hydrogène gris. Alors que l'hydrogène vert, il est produit après électrolyse de l'eau, c'est-à-dire que l'électricité va dissocier les molécules d'oxygène de celles d'hydrogène. De cette manière, aucun gramme de CO2 n'est rejeté. L'enjeu pour la France, c'est désormais de produire massivement cet hydrogène vert issu d'énergies renouvelables. Il faudra rapidement en faire baisser le coût et dans le même temps multiplier sa production actuelle par 700 d'ici 2030.
Alors Aurélien, l'hydrogène, oui, mais pour faire quoi ?
Alors le plus évident, ce sera dans les transports. Hein. Il y a déjà des bus qui roulent à l'hydrogène dans quelques villes. De très nombreuses collectivités ont désormais des projets très concrets, notamment pour des bennes à ordures, des camions, même des trains dans certaines régions et à plus long terme, des avions. L'Occitanie, la Normandie, la Bourgogne-Franche-Comté ou encore Auvergne-Rhône-Alpes sont en pointe dans l'hydrogène, notamment avec des projets de méga-usines pour fabriquer des électrolyseurs et des piles à combustible hein, également. Elles seront utilisées dans les véhicules, mais ce sera aussi très utile pour décarboner l'industrie, l'acier, le bâtiment, la sidérurgie et progressivement remplacer le pétrole.
Aurélien Fleureau, merci Aurélien. On part à présent dans le Grand Nord pour retrouver Jean-François Pérès en Finlande, à Helsinki. Bonjour Jean-François.
Bonjour Romain, bonjour
chef
à tous.
Chef du service des sports d'Europe 1, bien sûr. Les Bleus affrontent la Finlande ce soir. Bon, ils sont déjà qualifiés pour la Coupe du Monde de l'année prochaine. Nos Bleus, il n'y a plus d'enjeux de qualification, mais il y a des enjeux, Jean-François.
Hein. Oui, absolument. Vous savez, quand on est compétiteur, on n'a jamais envie de perdre. Même quand on est déjà qualifié, bien il y a un record à égaler ce soir pour l'équipe de France, c'est celui du nombre de matchs sans défaite. S'ils ne s'inclinent pas ce soir ici, les joueurs de Didier Deschamps seront à 27 matchs consécutifs. L'élimination au tir au but contre la Suisse à l'Euro n'est pas considérée comme une défaite. 27 matchs comme la génération 94-99 avec un certain Didier Deschamps comme joueur. Alors comptez sur le capitaine Hugo Lloris pour rappeler les consignes de sérieux à ses coéquipiers.
On se doit de bien finir l'année civile. Les Finlandais peuvent rentrer dans l'histoire en accrochant ces barrages. Et en tout cas, ils vont tout mettre en œuvre pour le faire. Donc, ça ne sera pas un match simple. Les supporters seront présents. Il va y avoir de l'ambiance. À nous de s'adapter à ces conditions. Il faut être prêt à jouer un match international et à livrer une performance comme il se doit.
Voilà, l'équipe sera largement remaniée, hein, l'occasion pour certains joueurs de marquer des points, hein, nom de la Coupe du Monde, Aurélien Tchouaméni notamment au milieu de terrain. Et puis pour les Finlandais, l'enjeu c'est la deuxième place du groupe ce soir, les barrages pour se qualifier pour ce qui serait la première Coupe du Monde de l'histoire des hiboux grand-ducs. Et oui, c'est le surnom de l'équipe nationale, c'est un animal symbolique ici. Ils doivent réussir, ces hiboux, une grosse performance face aux champions du monde et dans le magnifique stade olympique qui sera plein, 30 000 spectateurs malgré l'horaire tardif, près de 22 heures ici quand le coup d'envoi sera donné.
Les hiboux grand-ducs, c'est étonnant, tiens. Jean-François, il ne va pas falloir qu'ils attrapent froid nos bleus ce soir, hein.
Oui, alors ça, c'est une vraie donnée de ce match. Alors la température, elle n'est pas forcément spectaculairement froide, il fait 5-6 degrés environ, mais le problème, c'est le vent polaire qui monte une espèce de ressenti, on va dire, largement en dessous de zéro. Donc oui, il va faire froid, la pelouse sera sans doute assez dure, attention aux blessures musculaires pour certains joueurs de l'équipe de France, mais vous voyez, ça n'empêche pas les 30 000 spectateurs de venir quand même au stade ce soir, ils sont habitués ici.
Ils sont habitués, effectivement. Merci beaucoup Jean-François et bon match ce soir.